Il y a des gens qui n'en sont pas convaincus. Quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, il a dit que c'est une bonne nouvelle.
Amen. Amen.
Alléluia.
C'est une bonne nouvelle.
J'attends pour que ça puisse entrer, pénétrer. Il a dit que c'est une bonne nouvelle.
Amen.
Ah, Henri, c'est une bonne nouvelle.
Yeah.
C'est une bonne nouvelle.
Amen.
Olivier, c'est une bonne nouvelle.
Amen.
Il y a des gens aujourd'hui, vous l'avez dit, tu viens à l'église. Ils n'ont pas compris que c'est une
bonne nouvelle.
Et nous avons besoin de nous rappeler le fait que c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu.
Amen.
Ça va faire une série d'enseignements sur qu'est-ce que l'évangile. Pour les émissions actuelles, vous avez intérêt à aller les regarder. Ça va vous encourager. Même moi, ça m'a encouragé. On a tourné et quand j'ai regardé les clips, j'étais comme ça. Waouh, waouh. Je dis, mais attends, c'est toi qui enseignes. Ouais, mais. Oh. Il y a de ces fois où Dieu, n'est-ce pas? Et vous êtes là, waouh, ah ouais, mais c'est vrai, ah c'est bon, c'est une bonne nouvelle.
Amen.
C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Les anges, le ciel a célébré à la résurrection. C'est sûr que le ciel a tellement célébré à l'incarnation que certains membres sont venus sur terre pour en parler.
Amen.
Ils étaient tellement remplis de joie, il fallait qu'ils descendent sur terre pour faire en sorte que les habitants de la terre soient au courant.
Amen.
Qu'il se passe quelque chose de bon.
Wow.
Alléluia.
Amen.
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 Alléluia.
Amen.
Nous allons parler ce matin de la beauté de l'incarnation.
Amen.
Lorsque l'on parle de l'incarnation, on parle du fait que Dieu se soit fait chair. Dans Jean chapitre 1, il nous a dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus tard, il nous a dit que la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Et la beauté de l'incarnation commence avec ce que cela implique, le fait que Dieu, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de laisser sa gloire céleste et de prendre la condition des hommes. Et c'est une chose tellement glorieuse que nous avons besoin non seulement de l'accepter et de la croire vaguement, nous avons besoin de la méditer profondément. Nous avons besoin d'y réfléchir, nous avons besoin de la prier, nous avons besoin de continuellement demander à Dieu, et pas uniquement à Noël, mais continuellement demander à Dieu de nous montrer tout ce que cela implique. Parce que ça a des implications réelles sur nos vies et sur notre relation avec Dieu. Alléluia. Il y a un homme qui s'appelait Luc. Luc était un compagnon de l'apôtre Paul. Luc était un homme de science, était un médecin. Et Luc a écrit un des évangiles. Et ce qui me frappe, c'est qu'au commencement de son évangile, il dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, dites exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ce qui est frappant ici, c'est que Luc indique sa volonté de donner avec exactitude le récit de ce qui s'est passé dès l'origine. Et nous devons effectivement à l'évangile de Luc certains éclairages sur la naissance de Jésus que nous ne trouvons pas ailleurs. Et cette recherche d'exactitude est quelque chose qui aujourd'hui nous sert. Alléluia. Et c'est ce genre d'exemple que nous devrions prendre. La recherche d'exactitude, la recherche de la vérité, le désir de connaître les choses telles quelles, pas simplement ce qui m'arrange en ce moment, mais apprendre quelle est la vérité, quelle est la réalité, comment est-ce que les choses se sont réellement passées. Et nous savons, n'est-ce pas, nous savons à Abba House que l'évangile est une histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous savons aussi que c'est quelque chose que Dieu a prévu de longue date. Et un des aspects de la beauté de l'évangile, c'est justement cette planification méticuleuse et détaillée. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme si Jésus était venu à l'existence quand il est venu sur la terre. Et si vous voulez que votre foi soit solide, vous devez savoir que Jésus n'est pas venu à l'existence quand il est venu sur la terre. Il existait, nous dit Philippiens, en forme de Dieu. Mais il a pris la condition humaine. Et cela fait partie de cette beauté de l'incarnation, cette planification de longue date. Jésus qui est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et que Dieu a tenu à amener à l'existence. Et quand vous méditez longuement sur la chose, vous êtes émerveillés. Contre vents et marées, circonstances favorables et défavorables, siècle après siècle, génération après génération, la promesse n'a pas failli. Des générations se sont succédées. Dieu continuait à dire la même chose. Les prophètes se sont succédés et ils continuaient à dire la même chose. Les nations se sont succédées et ils continuaient à dire la même chose. Même son peuple s'est fourvoyé plusieurs fois et ils continuaient à dire la même chose. Moi, je trouve ça étonnant et étonnant pour un être humain. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on sait que ça n'a rien d'étonnant. C'est tout à fait son genre. Cette fidélité, cette constance. Et lorsque nous méditons sur ces choses, ça nous apprend tellement sur la nature de Dieu que ça change complètement notre façon d'être et de fonctionner. Mais lorsque nous ne méditons pas sur ces choses, nous acceptons le salut que Jésus offre, mais nous continuons à fonctionner de la même façon et à traiter Dieu comme s'il était comme nous. Et à vivre dans la crainte, dans l'incertitude, parce que nous n'avons pas réfléchi sur la nature de Dieu. La beauté de l'incarnation, c'est cette planification méticuleuse et millénaire. Et que Dieu a tenu à l'amener à l'existence. Rien ne l'en a découragé. Rien ne l'en a empêché. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous êtes obligé de vous dire, franchement, ces gens, ils n'ont pas toujours été sérieux. N'est-ce pas? Comme nous. Amen. Ah, celui qui cache ses péchés, comme on a dit hier, ne prospérera pas. Mais Dieu a tenu à amener son plan à l'existence. Et nous devons à l'évangile de Luc une compréhension de la manière dont ça s'est amené au moment choisi. La manière dont ça s'est manifesté plutôt au moment choisi. Parce qu'en Dieu, comme nous avons vu, il y a des temps et des saisons. Alléluia. Et au temps choisi, au moment kairos, au moment décidé par Dieu, les choses sont venues à l'existence. Et Luc nous raconte comment un homme qui s'attendait à rien, n'est-ce pas, d'un certain âge, est allé faire son service dans le temple. La beauté de l'incarnation dans cette planification, c'est aussi voir comment Dieu a planifié non seulement les événements, mais le choix des individus, le choix des lieux, n'est-ce pas? Rien n'a été laissé au hasard. Est-ce que ça vous dit quelque chose sur la nature de Dieu et sur la manière dont il fonctionne dans votre vie? Rien n'a été laissé au hasard. Et cet homme qui, ne soupçonnant rien, est allé faire son service au temple. Sacrificateur, Zacharie. Un homme d'ailleurs que l'on n'aurait pas choisi pour cette tâche particulière, parce qu'il avait justement montré qu'il en était incapable. Vu qu'il était choisi pour être le père de celui qui allait annoncer la venue du Messie, mais il avait un certain âge, lui et sa femme, et ils n'avaient pas fait leur preuve comme quoi ils étaient capables d'engendrer. Lorsque nous réfléchissons sur ces choses, nous commençons à saisir le fait que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui choisit. Et en son temps, il amène à l'existence ce qu'il a dit, quelles que soient les circonstances naturelles, favorables ou pas. Et nous ne sommes pas qualifiés parce que nos circonstances naturelles sont favorables, parce que nous sommes le bon selon l'homme, mais parce que nous sommes le bon selon Dieu. Alléluia. Et donc voilà que cet homme qui n'était franchement pas qualifié, vu qu'à son âge, il n'avait même pas fait un seul enfant, est allé faire son service au temple. Et l'évangile de Luc nous raconte le fait qu'un ange, un messager céleste, s'est manifesté à lui. Et a commencé à lui annoncer une nouvelle tellement inattendue qu'il s'est posé des questions. Qu'il allait avoir un fils. Et lui qui n'en avait jamais eu, qui était déjà vieux, et sa femme était déjà vieille, s'est quand même posé des questions. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'ange lui a dit que cela allait amener beaucoup de joie dans sa maison. Tout ce qui concerne Dieu amène de la joie.
Amen.
Il lui dit, ta femme Élisabeth t'enfondra un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Jésus n'est pas encore venu, la joie vient déjà. Alléluia. Tout ce qui l'entoure, c'est la
joie.
C'est la joie. Et nous apprenons la suite de l'histoire quand messager céleste est par la suite allé voir Marie. La beauté de l'incarnation, c'est cette planification méticuleuse, ce choix des individus. Dieu savait qui allait faire l'affaire. Et il a choisi une personne qui a accepté. Quelle est la probabilité qu'une jeune femme, à cette période, après des siècles où son peuple attendait le Messie, qui n'était toujours pas venu, chaque génération pensait, n'était toujours pas venue. Quelle est la probabilité qu'une jeune femme allait comme ça croire que ça allait venir par elle? Mais elle a cru. Elle a seulement posé la question de savoir comment ça allait se faire dans la mesure où elle n'était pas encore mariée. Mais ce qui montrait qu'elle n'avait pas connaissance de la prophétie d'Ésaïe selon laquelle une vierge enfantera. Mais on peut la lui pardonner, on peut le lui pardonner. Quelle grâce et quelle soumission. Quelle soumission à la volonté de Dieu. Et nous apprenons par la suite qu'elle est allée voir sa cousine Élisabeth. Un choix d'individu extraordinaire. Qui est effectivement tombée enceinte en attendant. Qui est effectivement tombée enceinte et a rencontré Marie. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que la parole de Dieu nous dit que lorsque l'ange est allé parler à Marie, Marie a gardé ces choses dans son cœur. Mais au moment où elle a rencontré Élisabeth, Élisabeth savait. Et c'était tellement merveilleux que même le bébé dans son ventre s'est réjoui. Une nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Même le bébé qui n'était pas encore né, en entendant les salutations de celle qui portait le Sauveur, s'est réjoui. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. La beauté de l'incarnation dans le choix des individus, pensez à Joseph. Pensez à cet homme qui a cru. Évidemment, au début... L'évangile de Matthieu nous raconte le fait qu'il voulait se séparer d'elle, mais discrètement, jusqu'à ce que lui aussi reçoive une révélation du Seigneur, selon laquelle l'enfant qu'elle portait était de Dieu. Et il a accepté. Messieurs, vous auriez accepté? Glory to God. Nous en parlerons plus tard. Hallelujah. Le choix, la beauté de l'incarnation dans la planification même des lieux, des événements. Les prophéties avaient annoncé que l'enfant allait naître à Bethléem. Ni Marie ni Joseph n'habitaient à Bethléem. Mais comme par hasard, un décret a été fait, comme quoi chacun devait aller faire le recensement dans sa ville natale. Et ils étaient obligés obligé pour eux de se rendre à Bethléem. Et la prophétie s'est accomplie. Moi, je m'émerveille de la capacité de Dieu d'amener à l'existence les desseins de son cœur, quelles que soient les circonstances, lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui acceptent de coopérer avec lui. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il y a des individus qui disent, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est ce que Marie a dit, qu'il me soit fait selon sa volonté. Ce qui a totalement ouvert la porte à ce que Dieu agisse et fasse selon sa volonté. Et dans l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, Hérode a effectivement massacré les nouveau-nés. Tout ceci prédit des centaines et 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 des centaines d'années auparavant. La beauté de l'incarnation dans la capacité de Dieu d'amener à l'existence ce qu'il a décidé de faire. La beauté de l'incarnation dans la personne dont il est question. On a chanté tout à l'heure ce chant merveilleux. Jésus, quel nom merveilleux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le passage d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, ce passage que nous avons lu tout à l'heure, je vais vous le relire, où il nous est question de la personne dont il est question, n'est-ce pas? Il nous a dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est une prophétie concernant la naissance de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, père éternel, prince de la paix. Ce mot admirable est aussi traduit merveilleux. On l'appellera merveilleux. Et c'est la personne qui rend l'histoire intéressante. Et c'est la personne que nous devons continuer à chercher à contempler. Quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne, c'est la personne de Jésus que nous devons constamment chercher à connaître, à voir, à saisir. Parce que comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la porte des brebis. Et tous ceux qui entrent, doivent entrer par lui. Tous ceux qui sortent, sortent par lui. Et il n'y a pas d'entrée en dehors de lui. La beauté de l'évangile dans la mission de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe. C'est le fait que le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas la mission de Jésus. Est-ce que vous le savez? Et lorsque vous parlez aux gens de Jésus, c'est ça que vous devriez dire. Pourquoi Jésus est venu? C'est la seule chose qui compte. Pourquoi Jésus est venu? Et c'est ce que nous devons continuellement garder à l'esprit. Pourquoi Jésus est venu? Et Jésus est venu en mission. Il est venu en mission de sauvetage. On avait vu il y a quelques années de cela en... un DVD de Reinhard Bonnke. Qui se souvient de ce DVD? Et dans le DVD de Reinhard Bonnke, il y avait des gens qui étaient sur un bateau de croisière, n'est-ce pas? Et il y avait des gens qui étaient sur un autre bateau, c'est bien ça? Qui étaient à l'extérieur de toute façon et qui étaient en train de couler. Et les gens qui étaient sur le bateau de croisière étaient là en train de boire et de manger, ils étaient bien. Mais les eaux sur un autre bateau à l'extérieur étaient en train de couler et n'entendaient pas le cri des gens qui coulaient et les ont laissés mourir. Et pour lui, c'était une image de l'Église. L'Église, pour beaucoup de gens, est un bateau de croisière. Et ils sont le royaume de Dieu, c'est un bateau de croisière. Et ils sont dans ce bateau de croisière, ils sont contents, ils sont bénis, ils sont heureux, ils réclament leur bénédiction, ils reçoivent, ils vivent leur vie, ils font ce qui leur plaît. Ils sont sur un bateau de croisière. Mais à l'extérieur, les gens sont en train de couler. Et ils n'entendent pas leurs cris. Jésus a entendu nos cris. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Et c'est important de saisir cela, que Jésus est venu en mission de sauvetage. Il a dit lui-même que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a entendu nos cris. Il a entendu ce que nous ne savions même pas que nous vivions. Parce qu'il y a des fois, les gens vivent des choses, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils sont. Ils savent juste qu'ils ne vont pas bien. Ils savent pas ce qui ne va pas. C'est un peu comme lorsque nous sommes allés pour le week-end, n'est-ce pas? Nous avons le week-end du Kourassi, nous avons prié pour les gens. Et les gens étaient libérés. Et il y a eu des remarques du genre, mais ils savaient même pas que j'avais ça. Qui se souvient? Mais je ne savais même pas que j'avais ça. Et les gens ne savent pas ce qu'ils ont. C'est au moment où la puissance de Dieu vient sur eux et que ce qu'ils ont disparaît. Mais je ne savais pas que j'avais ça. Et les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur, ne savent même pas ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de non seulement célébrer que Jésus est venu pour nous chercher, mais de prendre conscience du fait que Jésus est venu en mission de sauvetage. Et que cette mission de sauvetage, c'est à nous qu'il a confié quand il est parti. Et que nous ne sommes pas sur un bateau de croisière, nous sommes dans un navire de guerre. Et nous sommes censés aller à la rescousse de ceux qui en ont besoin. Quel que soit ce que vous recevez de Dieu, considérez que c'est ce qu'il s'agit d'une intendance. Tout ce que vous recevez de Dieu est censé vous aider, mais aussi passer par vous pour aller vers quelqu'un d'autre. Quelle que soit la chose, que ce soit la joie, vous recevez la joie, vous devez en donner. Vous recevez la paix, vous devez en donner. Vous recevez le salut, vous devez en donner. Vous recevez l'argent, vous devez en donner. Vous recevez l'amitié, vous devez en donner. Vous recevez l'amour, vous devez en donner. Tout ce que Dieu nous donne est censé nous bénir et ensuite passer par nous pour aller vers quelqu'un d'autre. Parce que le monde a besoin de sauvetage. Et parfois, au sein de l'église, nous avons besoin de sauvetage. Qui d'entre vous, il ne lui est jamais arrivé de se sentir triste? Alléluia, il n'en a pas chassé des démons de mensonges. Et quand vous êtes là et vous vous sentez triste, bien sûr, vous avez la joie de Dieu à l'intérieur de vous, mais il y a aussi quelqu'un qui en a reçu, qui est capable de vous en transmettre. Et quand nous avons cette perspective, que nous comprenons que Jésus est venu pour donner, et que Dieu est venu pour donner. La parole de Dieu nous dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous qui le recevons à chaque fois que nous disons, waouh, je suis né de Dieu, nous pensons aussi qui va être né de Dieu à travers moi. Et pendant que nous sommes en train de célébrer le fait que Jésus soit venu et que nous sommes sauvés, j'appartiens à Jésus, alléluia, ah, je suis heureux, hey, Jésus m'a libéré. Donc nous pensons en même temps à ceux qui seront libérés à travers notre prédication. Et plus nous avons cette conscience et cette manière, et que nous avons cette manière de fonctionner, plus nous en recevons. Parce que tout ce qui est donné est multiplié, ce qui est gardé périt. Et dépérit. Mais tout ce qui est donné est multiplié. Jésus est venu en mission de sauvetage. Jésus est venu parce qu'il a vu que nous avions besoin d'aide. Glory to God. Parfois, nous ne le savons pas. Avant de venir à Jésus, je ne savais pas que j'avais besoin d'aide. Je pensais que j'étais cool. Tout ce que je savais, c'est que je voulais savoir si c'était vrai que Jésus était qui il disait être. Si c'était vrai, parce que tous ces born again, ces chrétiens de nouveau me cassaient tellement les pieds que j'avais vraiment besoin. Au moment donné, je veux savoir quoi. Évidemment, je ne croyais pas à leurs histoires, je ne croyais pas qu'il y avait en enfer, je ne croyais pas que si je ne croyais pas en leur Jésus, j'allais mourir et aller en enfer. J'avais grandi dans l'église, je connaissais toutes ces histoires. Mais au bout d'un moment, je voulais savoir quelle était la vérité. Et c'est quand je suis venu à Christ que j'ai pris la mesure de mon besoin. Du fait que j'avais besoin d'être sauvé. Et ce que nous avons lu ici nous dit que nos peuples étaient dans les ténèbres. Et il y avait une grande lumière. Et les gens me disaient, ah, mais oui, t'es dans les ténèbres. Je me disais, you stop that. J'étais furax. Les gens me disaient, you're in darkness. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne se gênent pas. Mais à son unique truc d'évangélisation, c'était « tu vas aller en enfer ». Et rencontrer les gens dans la rue, tout de suite, elle leur parlait de l'enfer. Je dis « mais tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà en enfer ». Leurs vies sont tellement terribles, ils pensent qu'ils sont déjà en enfer, ça peut être pire. Dis-leur que Dieu les aime. Et qu'il va les sortir de l'enfer. Allez, Jésus est venu en mission de sauvetage. 1 Timothée 1,15 nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Jésus est venu en mission de sauvetage. Et l'apôtre Paul a dit ceci. Dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et partout je vois des leçons. Paul dit je suis le premier. Ce n'était pas parce qu'il était sous la condamnation, mais qu'il n'avait pas oublié d'où il venait. Il ne faut pas que nous oublions d'où nous venons. Lorsque nous fêtons la venue de Jésus, nous fêtons aussi le fait qu'il est venu sauver les pécheurs dont nous sommes le premier. N'est-ce pas? De telle façon que lorsque nous parlons aux gens qui ne le connaissent pas encore, nous ne leur parlons pas d'une position de supériorité parce que vous comprenez, nous on est chrétiens. Glory to God. T'es encore païen toi? Mais on faisait ça? Ah oui, quand on était jeunes convertis? Mais t'es encore païen? He's a heathen. Donc je suis le premier. Et quand nous sommes face aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, nous prenons conscience du fait que nous ne sommes pas ce que nous sommes à cause de nous, mais à cause de Jésus. Il est venu sauver les pécheurs dont nous sommes le premier. Et notre message doit être clair. Notre message n'est pas viens à l'église. Notre message ce n'est pas, ah oui, vous ne devrez pas vivre ensemble, vous n'êtes pas mariés. Qu'est-ce que ça change? Ils ne sont pas sauvés. C'est le fait de ne pas vivre ensemble qui va les sauver?
Non.
Maintenant, s'ils veulent savoir ce que vous en pensez, vous leur dites. Mais ce n'est pas ça l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous avons reçu, l'évangile que nous annonçons, c'est que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et ça a commencé avec nous. Ce que nous annonçons, c'est ce que nous avons reçu. Cette vie merveilleuse, cette vie éternelle. Jésus est venu en mission. C'était une mission d'amour. Il est venu nous introduire à l'amour. Parce que depuis la chute, l'homme ne sait plus ce que c'est l'amour. Dans le cours de discipline, nous avons parlé de l'amour. C'était assez surprenant, n'est-ce pas? L'amour se manifeste dans des choses les plus inimaginables et les plus inattendues, n'est-ce pas, Béa? Et ce n'est pas fonction de ce que nous ressentons.
Amen.
I feel love.
Amen.
Alléluia. Jésus n'a pas été mû par ses émotions. Il a été mû par son amour. S'il avait été mû par ses émotions, il aurait renoncé dans le jardin de Gethsémané. Pour tous ceux qui ont étudié Marc cette semaine, il aurait renoncé. Parce qu'il y avait de quoi renoncer, parce que ses émotions n'auraient pas tenu. Mais il était mû par l'amour et par le principe. Le principe que l'homme a besoin d'être sauvé. Et que seul ce qu'il allait faire pouvait les sauver. Et en dépit de ses émotions, il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jésus est venu en mission d'amour. Jean 3, 16, que tout le monde connaît, nous dit. À tous ceux qui ont fait le cours Racine, si vous ne connaissez pas Jean 3, 16, allez reprendre le cours Racine. C'est ce qui détermine si oui ou non vous êtes entré dans le royaume. Non, je plaisante. Mais c'est le verset de la Bible que tout le monde connaît. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Et pourquoi je parle d'une introduction à l'amour? Une mission d'amour? Parce que pour nous aujourd'hui, c'est normal de dire que Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu sur la terre, dans un monde qui ne connaissait pas un Dieu qui aimait. Le monde païen de l'époque avait des dieux, mais leurs dieux n'étaient pas des dieux d'amour. C'était des dieux de vengeance. C'était des dieux qui se jouaient des êtres humains. C'était des dieux qui se moquaient des êtres humains. C'était des dieux méchants, violents. C'était des dieux imprévisibles. Et Israël avait un Dieu d'amour, mais ne le connaissait pas. Parce qu'il y avait toutes ces lois. Et ensuite, des lois supplémentaires que les hommes ont ajoutées. Et les gens étaient perdus au milieu de tout ça. Il y avait toutes sortes de rituels, de pratiques, etc. Mais le cœur n'y était pas. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ce peuple m'honore avec les lèvres. N'est-ce pas? Mais le cœur était éloigné parce que les gens avaient perdu le sens d'une relation d'amour. Et donc, lorsque le scribe était allé voir Jésus pour lui dire, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit, aimer Dieu et aimer son prochain. Il a dit, ah, tu as bien répondu. Et pourquoi? Parce que les gens avaient perdu cette notion. Et que par ailleurs, ils ne connaissaient pas réellement Dieu comme le Père. Et quand Jésus parlait du fait que Dieu était son Père, les gens voulaient le tuer. Parce qu'ils trouvaient qu'il abusait. Jésus est venu en mission pour nous introduire à l'amour. Jésus est venu en mission. Et quand vous parlez aux gens de Dieu, parlez-leur de son amour. L'amour inconditionnel. Le nombre de personnes qui ne viennent pas à Jésus parce qu'ils sont convaincus, elles sont convaincues qu'elles sont tellement mauvaises que Dieu ne va pas les accepter. Ou elles sont convaincues qu'elles doivent d'abord mettre de l'ordre dans leur vie et se rendre acceptables avant de venir à Dieu. Mais quand on comprend l'amour de Dieu, on comprend qu'on vient comme on est et on se jette sur sa miséricorde. Et parce qu'il aime, parce que quand nous n'étions pas aimables, Jésus est mort pour nous. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu en mission de sauvetage. Jésus est venu en mission d'amour. Jésus est venu en mission de réconciliation. Réconciliation. Vous savez, lorsqu'on médite sur le mot réconciliation, on a un autre regard sur Dieu. Les gens vont vous demander pourquoi vous êtes si heureux. Il y a des gens qui vivent constamment dans le conflit. Ils ont un problème avec un tel, ils ont un problème avec un tel, ils ont un problème avec un tel. Et on veut toujours régler les problèmes. Mais venez, on va discuter, on va régler les problèmes. Il y a toujours quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui est en colère. Même quand vous êtes gentil, vous n'êtes jamais dans une situation où tout le monde pense que waouh. Il y a toujours quelqu'un sur la planète à un moment donné qui n'est pas entièrement satisfait de vous. Nous vivons constamment dans cette situation où nous avons besoin de réconciliation. Que ce soit les malentendus, il y a des gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres dans le monde? Moi, je dis, mais le fait même qu'il n'y ait pas plus de guerres, c'est parce que Dieu existe. Parce que les conflits font partie de la vie humaine. Tous les jours, les malentendus, les désaccords, des amis d'antan qui ne se parlent plus. Vous êtes réconciliés? Je plaisante. C'était pour te réveiller. Et nous avions cette situation avec Dieu. Nous étions fâchés avec Dieu. Et Jésus est venu en mission de réconciliation. Et les choses de Dieu deviennent merveilleuses à nos yeux quand nous comprenons le fait que avant que Jésus ne soit venu, nous étions en discorde avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel. Parce qu'ils ne font pas de mal aux gens. On ne parle pas de celui qui vendait de la drogue, mais qui pensait qu'il ne faisait pas de mal. Mais même des gens normaux comme vous et moi, nous sommes convaincus que parce que nous sommes des gens bien, nous irons au ciel, parce qu'il n'y a pas de souci, nous ne faisons pas de mal aux gens. Mais l'état de l'homme, c'est un état de séparation. Et quelqu'un me disait un jour, oui, mais telle religion, ils croient en Jésus, mais ça change rien. Ils croient pas que Jésus soit le sauveur. Ils croient pas que Jésus est celui qui réconcilie avec Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est celui qui a porté leur péché. Ils croient que Jésus va revenir, mais revenir comment et pourquoi? Et qui est ce Jésus en qui ils croient? C'est vraiment important de saisir. Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu parce que nous étions séparés de Dieu. Et l'être humain dans sa nature actuelle est séparé de Dieu. La personne la plus gentille, la plus sympathique. Et je me souviens dans le temps, on disait déjà, oh, he's too nice to go to hell. Parce qu'on avait compris que ce n'était pas notre bonté. Toute notre bonté ne fait pas l'affaire. La personne la plus sympathique, la plus agréable est séparée de Dieu. Parce que l'homme est séparé de Dieu. Et la mission de Jésus, c'est justement d'effectuer cette réconciliation. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons l'urgence que c'est de témoigner aux gens autour de nous et leur dire, viens à Jésus. Parce que c'est lui qui va te réconcilier avec Dieu. Et quand les gens nous disent, ah oui, mais moi je suis quelqu'un de bien, nous savons de quoi leur expliquer. C'est pas juste, oui, mais tu es quelqu'un de bien, donc viens à l'église si tu es quelqu'un de bien. Non, 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 tu es quelqu'un de bien, d'accord, viens à Jésus. Parce que sans lui, il n'y a pas de réconciliation. Et que par ailleurs, quand nous disons que nous sommes des gens bien, Dieu nous regarde et dit, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Parce que ce que nous considérons comme être bien, c'est comme des haillons aux yeux de Dieu. C'est comme des vêtements souillés. Réconciliation. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce passage que nous citons souvent d'ailleurs à Bahas, 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures ici aujourd'hui?
Amen.
Alléluia. Thank you, Lord. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. Tout cela vient de Dieu. Il est l'artisan du salut. La venue de Jésus, c'était son idée. Et quand on réfléchit à ces choses, on ne peut qu'être émerveillé. Et quand on dit on va le louer, on se met à danser. Et on se met à sauter et à chanter. Parce qu'on comprend que tout cela vient de lui. Je n'ai pas eu la merveilleuse idée un jour d'être sauvé. N'est-ce pas? Toute la pensée que j'ai pu avoir sur Dieu, tout le désir que j'ai pu avoir sur Dieu, c'est parce que Dieu était à l'origine. Et quand je comprends cela, je cesse d'être inquiet sur ma vie, parce que le même qui était à l'origine de mon salut, combien même s'occupera-t-il du reste? Comme je vous dis, il n'y a aucune bénédiction que vous allez recevoir de Dieu maintenant qui soit meilleur ou supérieur à ce que vous avez déjà reçu. Vous avez reçu Jésus.
Amen.
Il vous a déjà donné le meilleur. Il n'y a pas mieux que son fils. Oui, je sais, vous devez payer votre loyer, mais ce n'est pas mieux que son fils. Glory to God. Hallelujah. Glory to God.
Amen.
Et c'est la raison pour laquelle il faut nous attarder sur la personne de Jésus. Et sur la mission de Jésus. Parce que plus nous comprenons la mission de Jésus, plus nous sommes affermis dans notre marche avec Dieu. Parce que déjà, rien qu'en réfléchissant à la mission de Jésus, nous comprenons tout ce que Dieu a mis en œuvre pour venir vers nous. Et si Dieu a fait tout ça pour venir vers nous, que demande le peuple? Il n'a pas inventé des choses nouvelles pour les besoins mineurs de chaque jour. Est-ce que vous me suivez? Et tout cela vient de Dieu. Dites, tout cela vient de Dieu. Dites-le à votre voisin. Dites-lui que tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Vous êtes installé là confortablement le dimanche matin pour écouter la parole de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Vous êtes réveillé ce matin pour dire on va aller fêter Noël à l'église. Tout cela vient de Dieu. Alléluia. Chaque jour, quand vous réveillez, vous dites merci Seigneur, tout cela vient de Dieu. À chaque fois que vous résistez à une tentation de faire des bêtises comme vos amis, tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas, ah ouais, moi aujourd'hui, ah, moi j'étais fort, ah non, 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 moi j'ai dit non, moi je suis chrétien, non mais attends, je suis chrétien, ah non, je leur ai dit à mon gars, je leur ai dit, ah non, moi, je ne fais pas ça, moi je suis chrétien. Ah non, vraiment, franchement, pasteur, tu me félicites. Hein. Cette semaine, j'étais bien. Non, vraiment, merci. Non, la prochaine fois, dites, tout cela vient de Dieu.
Amen.
Tout cela vient de Dieu. La capacité de tenir ferme, de résister au milieu d'une génération incrédule, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Alléluia. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Jésus est venu en mission de réconciliation. Il nous a réconciliés par Christ. Alléluia. Il y a de quoi célébrer. Et de quoi se réjouir. Il y a de quoi danser. Je ne vois personne danser. Et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est fort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce que nous recevons, nous donnons. Tout ce dont nous bénéficions, nous partageons. Alléluia. Nous avons reçu la réconciliation. Ce qui veut dire que alors qu'avant nous étions exclus, nous étions des gens du dehors. Vous vous souvenez? Nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Que nous ne sommes plus des gens du dehors. Réconcilier. Réconcilier veut dire qu'il n'y a plus de problème. Les histoires, c'est fini. Les tracas, c'est fini. La discorde, c'est fini. La séparation, c'est fini. Les malentendus, c'est fini. Le « oh, je ne sais pas si Dieu m'entend », c'est fini. Parce que maintenant, nous sommes réconciliés. C'est pour ça que l'Épître aux Romains nous dit que nous sommes en paix avec Dieu. Alléluia. Vous savez que c'est différent quand vous êtes en paix avec quelqu'un. Quand il y a des bisbilles, parfois on ne regarde pas la personne dans les yeux, je viens parler avec toi, je dis « oui, bon, écoute, il faut que tu fasses ça et bon, tu comprends. Hein? » Et je ne la regarde pas dans les yeux. Parce que nous ne sommes pas en paix. Mais maintenant que nous sommes en paix avec Dieu, que nous avons été réconciliés par Jésus, nous avons la capacité de nous tenir le matin et le regarder. Seigneur, mon Père, c'est moi. Ce n'est plus le « moi, je viens prier. » Alléluia, amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et je m'enfuis avant qu'il ne commence à parler de mes péchés. Mais il sait que je le respecte, mais de loin. La réconciliation veut dire qu'il a provoqué une relation d'intimité. Et que tout ce que nous étions par le passé a été pardonné. Tout ce que nous avons fait de mal a été pardonné. Non seulement pardonné, mais oublié. Et certains d'entre vous, nous avons besoin que ce soit oublié. Hein? Je ne regarde personne.
Alléluia.
Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez que l'on oublie? Non, si vous avez 5 ans, ce n'est pas votre cas. On espère. Mais est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, vous préférez qu'on oublie, on n'en parle plus, ça n'a jamais existé, vous ne voulez même pas y penser? Et que vous avez des amis qui de temps en temps vous rappellent. Oui, mais bon, tu es bien maintenant, mais tu te souviens que... Hein? Non, bon, oui, ça c'est avant. Oui, mais en même temps, tu sais que... Hein? Et dès que vous faites quelque chose et qu'ils ne sont pas contents, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, maintenant, tu fais ça, tu t'en souviens. Hein? Il y a 10 ans, tu as fait ça, et ça, et ça. Qui était là pour toi? On a tous des choses. On préfère considérer que ça n'a jamais existé. La réconciliation veut dire que Dieu considère que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Moi, j'ai eu des situations avec des gens qui sont venus me parce qu'il y avait un problème sur quelque chose qui s'était passé avant de venir à Christ. Et le plus dur, c'est de faire accepter aux gens que ça n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe plus. Et ça a duré longtemps. Toutes ces choses que nous prenons pour acquises, que nous ne méditons pas, ont un impact sur nos vies, sur notre relation avec Dieu. Et constamment revenu dessus pour dire, c'est fini. C'était avant Jésus. Ça n'existe plus.
Amen.
Et les gens ont du mal à saisir. Et à comprendre qu'ils ne sont plus la même personne. C'est fini.
Amen.
Est-ce que vous suivez? Il est venu en mission de réconciliation. Ça veut dire que c'est fini. Et parfois, oui, mais tu ne comprends pas. Tu sais, il avait fait ça, et il avait fait ça. Oui, et alors c'est fini. C'est la beauté de l'incarnation. Dites à quelqu'un, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini. Et pourquoi je vous invite à ne pas seulement dire, alléluia, c'est Noël, j'ai mes cadeaux, etc. À méditer sur la personne de Jésus et la mission de Jésus. Parce que ça nous amène dans une plus grande libération. C'est fini? C'est fini? C'est fini? C'est fini? C'est fini? C'est fini?
Ah, c'est fini, hein.
C'est fini! C'est la mission que Jésus est venu accomplir. Nous réconcilier avec Dieu. Tout ce qui nous séparait de Dieu, c'est fini. La relation est rétablie. Dieu a pardonné. Et Dieu a décidé de ne plus s'en souvenir.
Amen.
Et le diable va nous le rappeler. Et parfois, nous hésitons à avancer à cause de ce qui est derrière nous. C'est fini. Et vous savez, lorsque nous acceptons que c'est fini, c'est là où nous voyons vraiment Dieu faire des choses glorieuses. Et que ce qui était pour nous détruire devient un tremplin pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu en mission. Dites mission.
Mission.
Il est venu en mission de révélation. Il est venu pour nous montrer Dieu. Parce que l'homme avait une image pervertie de Dieu. Et aujourd'hui encore, les gens ont une image pervertie de Dieu. Et quand Philippe, Jésus parlait à ses disciples quand il allait les quitter, et Philippe, vous vous souvenez de ce passage, Philippe s'est tourné vers Jésus, il a dit, oui, mais Seigneur, montre-nous le Père, c'est tout ce qu'on veut. Je dis, moi, je ne suis pas difficile, je ne suis pas compliqué, je ne te demande pas le sens de toute la loi, etc. etc. Simplement, montre-moi le Père. Et on trouve, ben, c'est normal, hein? Il est avec Jésus, il veut voir Dieu, c'est normal. Et Jésus l'a regardé. Jésus l'a regardé. Il a dit, mais Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe! Il y a un point d'exclamation. Pour dire que Jésus s'attendait à ce qu'avec tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait, les uns et les autres comprennent qu'il était venu révéler le Père. Et nous avons besoin aujourd'hui d'en prendre conscience. Encore aujourd'hui, c'est ce qui est fou. Il y a des chrétiens qui se comportent comme si Dieu était ce grand inconnu. Cet être mystérieux au ciel. Oh, éternel, si tu m'entends. Oh, Dieu. Oh, puissant. Oh, ah. Hein? Hein? Est-ce qu'on essaie de le toucher, de le sentir? Et parfois, on a les mains levées pour l'adorer, parfois on a les mains levées pour s'accrocher. Quelque chose de palpable. Et c'est à cause de ça que les gens ont commencé à mettre des idoles dans les églises. ce désir de toucher. Ce n'est pas parce que les gens voulaient s'agenouiller devant des idoles. C'est juste ce désir que Dieu soit palpable. Qu'il puisse avoir le sentiment de le voir, de le connaître. Et donc, on met une effigie pour que les gens voient. Ça, c'est Jésus. Ah, ok, Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus est venu révéler le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je me dis, quelle question, enfin. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus est venu pour révéler le Père. Jésus est venu pour que Dieu soit palpable. Jésus est venu en mission de destruction. Il y a des gens qui sont sûrs que s'ils venaient à l'église, Dieu allait sûrement les tuer. Ah oui, parce qu'ils sont méchants. Ils ont tort. Jésus n'est pas venu pour détruire les hommes, mais détruire les œuvres du diable.
Amen.
Il est venu pour les anéantir. Puisque Jésus est venu pour les anéantir, ça ne devrait plus exister dans la vie des enfants de Dieu. 1 Jean 3, 8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est tout cela que nous gardons à l'esprit pendant que nous célébrons le fait que Dieu se soit incarné. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu en mission de reconquête.
Amen.
Est-ce que vous savez ce qu'il est venu reconquérir? Qui sait ce qu'il est venu reconquérir? Ne dites pas, mon cœur. Qu'est-ce qu'il est venu reconquérir? Qu'est-ce qu'il est venu reconquérir? La terre. Qui a été donné au Fils de l'homme et que les fils de l'homme ont cédé à Satan. C'est la raison pour laquelle, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, en lui offrant les royaumes de ce monde, il lui offrait ce qui était à lui. Parce que l'homme le lui avait cédé. Et tout le pouvoir. Et Jésus, quand il est sorti du tombeau, rappelez-vous, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est venu reconquérir. Il est donc allé maintenant et prêcher l'évangile à toutes les nations. Maintenant, vous avez en vous la capacité de dominer et de vaincre sur les forces qui agissent dans ce monde parce que j'ai fait la reconquête. Donc, vous, allez-y et prêchez l'évangile et je suis avec vous. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait qu'on n'est pas là à se cacher dans nos églises. Oui, mais les gens sont méchants, ils n'aiment pas Jésus. Va rester entre nous. Non, on ne va pas rester entre nous. On va aller au milieu d'eux et on va annoncer l'évangile. Parce que Jésus est déjà venu en mission de reconquête et il a conquis et il est parti. La mission de Jésus. Jésus est venu en mission de reconquête. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous ne devez pas accepter, vous, de fléchir le genou devant une puissance démoniaque quelconque, devant une circonstance humaine quelconque. Un enfant de Dieu ne doit pas fléchir les genoux. Nous ne fléchissons les genoux que devant Jésus. Et tout le reste doit fléchir les genoux devant Jésus. Tout le reste. Tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu doit capituler devant un enfant de Dieu. Parce que Jésus est venu en mission de reconquête. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de méditer sur l'incarnation? La beauté de l'incarnation. Il est venu changer la donne. Totalement, complètement. Absolument. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pas simplement que c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Je lisais un article, les gens demandaient à un pasteur, Ils ont mais 30 ans après, comment tu fais pour garder la passion? Il dit, mais parce que je crois que l'évangile est vrai. Et je dis, mais exactement, c'est ce que je leur dis tout le temps. C'est que c'est vrai. Il y a des chrétiens qui se comportent comme si l'évangile c'est sympa, mais c'est pas vraiment vrai. Mais bon, c'est sympa pour nous. Ça nous arrange de croire ça, mais bon, hein, on fait comme on peut. C'est une philosophie de vie comme une autre, mais bon, c'est la nôtre. Non, c'est universel.
Amen.
C'est ce que c'est universel. Pourquoi est-ce qu'on a la foi quand on est face à une circonstance compliquée, face à une personne qui a des difficultés et convaincu de ce qu'on va pouvoir l'aider? Moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, quel que soit leur problème, oui, mais tu sais, il y a ça, et des problèmes démoniaques dans la famille, et ça fait des années, et mon père est tourmenté, et ma tante, et mon arrière-grand-mère, et j'ai dit, mais on va te libérer, toi. Oui, mais tu sais, il n'y a pas de souci. Parce que je suis convaincue que Jésus a la capacité de te délivrer. On ne le dit pas seulement pour que tu te sentes mieux. On le dit parce que c'est vrai. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai. Dites, c'est vrai. Mais pour que nous puissions le vivre, il faut l'intégrer pleinement. Parce que nous devons être en accord, corps, âme et esprit. Et souvent, notre âme est à Timbuktu et nous sommes à Paris. Et nous avons été programmés par le monde, nous avons une autre logique cause à effet que celle de la parole de Dieu. Donc, ce qui est vrai ne fonctionne pas dans nos vies parce que notre manière de réfléchir est totalement contraire à la parole de Dieu. Donc, nous-mêmes faisons obstacle à ce que Dieu veut faire. Nous devons intégrer le fait que c'est vrai. C'est une réalité. Je vous ai souvent dit comment j'avais dit au Seigneur. Quand je savais qu'il m'appelait pour prêcher l'évangile. Et il faut être honnête avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je crois. Je lui ai expliqué que je croyais. Ça, c'est pas un souci. Mais j'ai besoin d'un degré de conviction plus grand. Si je vais me tenir debout devant les gens et leur dire, c'est comme ça que tu dois vivre sa vie. Ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si je vais me tenir devant des gens pour leur dire, ça, c'est comme ça. Parce que c'est ton choix de vie que l'on est en train de dire. Il ne s'agit pas juste de quelque chose que je crois, qui m'arrange, qui me bénit. C'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens prennent leur foi. Par conséquent, ils ne manifestent pas les résultats de la mission de Jésus. Jésus, c'est quelque chose de sympathique qui les arrange, qui leur permet de bien vivre. Non, c'est plus que ça. Je dis, Seigneur, si je vais me tenir devant les gens et leur dire, c'est ça la vérité et tu dois changer ta vie, pour accepter ça comme la vérité. Et après l'avoir accepté, tu dois changer ta vie pour conformer ta manière de faire à cette vérité. Je dois en être absolument convaincu moi-même. Et plus convaincu que je ne le suis maintenant. Vous pensez que Dieu était fâché? Non, il m'a donné la conviction. Ah non, il m'a donné la conviction. Un jour, je prenais le café avec une collègue professionnelle que je venais de rencontrer. Donc on a discuté. On devait se rencontrer pendant quelques minutes. On a discuté pendant 4 heures. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc, on a parlé. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de la conversation, la personne m'a dit, mais ce qui me frappe, c'est quelle conviction. Et pour moi, je parlais normalement. Parce que vous n'êtes pas, je ne sais pas quand vous prenez le café, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là à installer, à prendre. Mais parce que l'Éternel dit, hey! Amen! Amen! Donc, vous prenez le café, vous discutez. Et j'étais frappée par le fait que cette personne a été saisie par la conviction que j'avais. Et je dis, Seigneur, effectivement, tu avais répondu à ma prière. Je savais qu'il avait répondu à ma prière. Mais dans des circonstances différentes, ça vous frappe de façon différente. Nous avons besoin, et chacun de nous a besoin, de passer à un plus grand degré de conviction cette saison. Que les choses que vous... Ah oui, c'est vrai, c'est bien, etc. Ça devient plus que c'est bien, c'est que c'est vrai. Et parce que je sais que c'est vrai, je n'accepte pas que ça ne se manifeste pas pleinement dans ma vie. Je sais que c'est vrai. Et quand je suis convaincue, où que je sois, je ne change pas de discours. Trop de chrétiens changent de discours en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Vous savez, si vous ne changez pas de discours, un jour, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront qu'ils peuvent se fier à vous. Mais si vous changez de discours, même si un jour ils voulaient venir à Jésus, ils ne viendront pas à vous. Eh bien, lui, ce n'est pas clair son truc. Un coup, il est là, après, il dit ça, non. Je vais aller chercher quelqu'un qui vraiment sait ce qu'il croit. La beauté de l'incarnation, c'est dans la mission de Jésus. Mission de reconquête, mission de destruction, mission de révélation, de réconciliation, d'amour et de sauvetage. Alléluia. Qui est sauvé ici? Il y a quelque chose qui est extraordinaire aussi. Et ça, je veux vraiment que vous y réfléchissiez. La beauté de l'incarnation, c'est dans la nature de celui qui est incarné. Nous savons qu'il est Dieu. Nous avons lu le passage dans Ésaïe. Il nous a dit qu'il est Dieu puissant. N'est-ce pas? Ésaïe prophétisant des centaines d'années avant que l'apôtre Jean n'écrive et la parole s'est faite chair. Alléluia. Avant que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dise, auparavant Dieu nous a parlé par les prophètes, mais en ces derniers temps il nous a parlé par son Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sa nature divine, c'est une chose, sa nature humaine, c'est autre chose. Et c'est sur ça que je vais terminer, cette nature humaine. Pourquoi c'est si important pour nous? Pourquoi c'est si important pour nous? C'est important, évidemment, parce que c'était un homme qui a péché, il fallait que ce soit un homme qui vienne nous sauver. Je vous encourage à aller regarder les émissions qu'on a faites pour Noël, les 4 émissions. Ça va vous bénir. Et j'explique longuement pourquoi il fallait que Jésus soit, ou vienne comme un homme. C'est un homme qui a péché, il fallait que ce soit un homme qui porte la punition du péché, n'est-ce pas? Mais il y a aussi autre chose qui est intéressante pour nous, qui est vraiment intéressante pour nous, c'est le fait que Jésus a partagé notre condition. Et comme on dit en anglais, « He stood where we stand ». Il s'est tenu là où nous sommes. Il a marché sur la même terre que nous. Il a vécu les mêmes difficultés que nous. Il a subi les mêmes attaques que nous. N'est-ce pas? Il a été tenté, nous dit la parole de Dieu, de la même manière que nous. Mais il n'a pas péché. Ce qui le qualifie pour nous sauver. Mais ça, on en parlera à la résurrection à Pâques. Alléluia. Mais, ce que je veux vraiment souligner et que nous devons garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que le fait qu'il ait partagé notre condition humaine veut dire qu'il sait exactement ce que nous vivons. Il comprend ce que nous ressentons. N'est-ce pas? Et puisqu'il sait ce que nous vivons et comprend ce que nous ressentons, nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons avoir la foi en lui. Nous pouvons le suivre. Et nous pouvons suivre ce qu'il nous dit d'être et de faire. Parce que nous savons qu'il a, il a été dans nos chaussures, comme on dit. Et que s'il nous dit d'être, c'est qu'il sait que nous pouvons. S'il nous dit de faire, c'est qu'il sait que nous pouvons. Et à chaque fois qu'il nous dit d'être et que nous pensons je ne peux pas, dit non, mais Jésus l'a dit, Jésus sait, il n'y a pas d'excuse que je vais lui donner, il n'y a pas de raison humaine que je vais invoquer, il sait ce que c'est que d'être un être humain. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que cela amène? Cela amène la confiance et ça nous amène à coopérer davantage avec Dieu. Arrêtez d'évoquer des raisons humaines pour ne pas faire la volonté divine. Et Dieu Jésus sait exactement de quoi il parle. Et il est venu nous élever, nous faire monter, quitter cette condition naturelle et entrer dans une condition divine. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons partagé sa nature. Alléluia. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Alléluia. Nous allons se dire, oui, mais Seigneur, tu comprends. Oui, mais Seigneur, tu vois que, je vais t'expliquer. En fait, si tu savais, vraiment. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire. Au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, sans aller nous cacher. Vous vous souvenez de mon ami? Exactement. Celle qui n'était pas réglée devant Dieu et qui, quand elle faisait quelque chose, elle sentait que c'était pas bien, elle voulait se cacher, qu'elle voulait aller se cacher aux toilettes pour que Dieu ne la voit pas. La parole de Dieu nous dit de nous approcher de lui avec assurance. Est-ce que nous voulons nous approcher de lui ce matin?
Amen.
Levons-nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais réellement approché de Jésus? Qui n'a jamais, à un moment donné, pris la décision de suivre Jésus? Qui n'a jamais, à un moment donné, accepté d'être sauvé par Jésus? Jésus est venu en mission de sauvetage, il est venu en mission d'amour, pour que nous voyions à quel point Dieu nous aime. Jésus est venu en mission de réconciliation, pour nous réconcilier avec Dieu et enlever toute la discorde et faire en sorte que nous devenions membres de la famille de Dieu. Des gens qui vivent pleinement l'amour du Père. Alléluia! Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour nous libérer complètement. Complètement! C'est la raison pour laquelle on a ce genre de réaction au week-end de cours racines quand on prie pour les gens. Ils sont libérés. Vous comprenez, Satan ne peut pas vous retenir. C'est que juridiquement, il n'a pas le droit. N'est-ce pas? Et sous le plan de la puissance, il n'a pas la puissance. Il n'a ni le droit, ni la puissance pour s'opposer à la puissance de Dieu. Jésus est venu en mission de destruction. Il est venu en mission de réconciliation. Il est venu en mission de reconquête. C'est pour cela que nous pouvons dire que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. C'est pour cela que où que Dieu vous envoie, vous y allez la tête haute comme un enfant du roi. Vous ne dites pas, ouais, mais le Japon, je ne connais pas le japonais, je ne connais pas les japonais, oh, je ne peux pas y aller, Seigneur, je ne peux pas aller au Japon. Où que Dieu vous envoie, c'est chez vous. Parce que la terre appartient à l'Éternel. Jésus est venu en mission de reconquête. Et quand vous arrivez là-bas, vous dites, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, l'Éternel me donne.
Amen.
Alléluia. Et vous n'y allez pas comme un citoyen de seconde catégorie. Oui, mais je ne sais pas, moi je suis Camerounais, ils n'aiment pas les Camerounais au Japon. Mais non, qu'est-ce que ça va avoir? Vous êtes un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. La terre appartient à l'Éternel. Et quand vous arrivez là où il vous envoie, vous demandez la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu est manifestée sur vous et vous accomplissez les desseins de votre Père. Et vous êtes toujours le premier et jamais le dernier. En avant et jamais en arrière. C'est ça être un enfant du royaume. Alléluia! Et vous allez vous débarrasser avant la fin de cette année de toutes les pensées de petitesse, de je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis rien, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Donc si vous n'avez jamais fait cette prière pour devenir un enfant de Dieu, vous ne savez pas si à un moment donné vous êtes réellement engagé, vous n'êtes pas absolument convaincu aujourd'hui que vous appartenez à Jésus et que si vous mourrez, vous serez avec Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Je vais vous demander de répéter cette prière après moi. Père Céleste, me voici. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Je reconnais que dans ta bonté, Père, tu as envoyé ton Fils qui s'est incarné et est devenu un être humain et s'est donné pour nous. Je reconnais, qu'il est venu en mission, pour me sauver,
pour
me réconcilier avec toi,
pour me montrer ton amour.
Et aujourd'hui, Père, Je me détourne
de
ma vie passée.
Je te donne ma vie.
J'accepte
le salut.
La réconciliation,
le pardon
que Jésus offre.
Je me repens de mes péchés.
Je décide de changer de vie.
Je veux connaître
ton amour,
ta vie,
ta joie.
Je veux vivre
la vie à laquelle tu me destines.
Je veux être intime de Dieu.
Je renonce au diable
et à toutes ses œuvres.
Et je dis qu'aujourd'hui
je saisis
la révélation de Jésus Sauveur,
de Jésus qui guérit,
de Jésus qui libère,
et j'accepte
que toutes ces choses
soient faites dans ma vie,
au nom de Jésus.
Amen.